Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. L'heure pour vous de retrouver Thomas Cluzel pour le journal. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Un Palestinien de nouveau a été tué ce matin dans une frappe de l'aviation israélienne dans la bande de Gaza visant le djihad islamique, et ce alors qu'un cadre du groupe islamiste local avait lui déjà été éliminé à l'aube. Depuis, une cinquantaine de roquettes ont été tirées en représailles vers Israël.
La situation reste plus que jamais chaotique en Bolivie après que l'ex-président démissionnaire Evo Morales, lequel se disait menacé, a décidé de rejoindre cette nuit le Mexique où il a obtenu l'asile.
Et ce alors que sur place, l'armée bolivienne a par ailleurs annoncé vouloir prêter main forte à la police pour amener l'ordre.
Dans votre journal également, Emmanuel Macron qui a fustigé ce matin la pudibonderie de ceux qui refusent de voir l'inefficacité des organismes internationaux.
Et allusion bien évidemment à ses récentes critiques sur l'OTAN, le président français qui inaugurait ce matin la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix, dont il a défendu l'utilité en dépit de l'absence de la plupart des dirigeants des grandes puissances de la planète. Les syndicats et fédérations étudiantes appellent à participer aujourd'hui à une quarantaine de rassemblements prévus devant les Crous de France après qu'un étudiant de 22 ans en détresse sociale s'est immolé par le feu à Lyon, c'était vendredi dernier. Enfin, comment restaurer la confiance du public envers les médias? Ce sera l'objet de notre dossier à l'occasion de la sortie d'un nouveau site dédié médias-et-citoyens.com. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et un autre comment dans nos vies? Comment reprendre le pouvoir sur des technologies qui entravent notre capacité d'être et surtout notre capacité d'agir? C'est le thème du nouvel essai de Diana Filipova, l'auteur de Technopouvoir, et notre invitée.
Merci et à tout à l'heure. Comme on pouvait le redouter, le calme qui régnait ces dernières semaines le long de la barrière entre l'enclave palestinienne de Gaza et l'État hébreu n'était que relatif ce matin. Après que l'armée israélienne eut tué lors d'une frappe menée contre son domicile un haut commandant du djihad islamique et sa femme, des salves de roquettes ont aussitôt été tirées en représailles sur plusieurs villes israéliennes, faisant résonner les sirènes d'alerte jusque dans la métropole économique de Tel Aviv. Et puis dans le même temps, au moins deux autres personnes ont été également tuées dans une frappe à Damas. Cette fois-ci, il s'agirait là encore de l'un des chefs politiques du djihad islamique allié au Hamas, ainsi que son fils. Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Alors ce matin, les autorités israéliennes justifient leur opération à Gaza en accusant le groupe armé palestinien djihad islamique d'être responsable de plusieurs attaques terroristes et autres tirs de roquettes sur l'État hébreu. Mais au-delà, et ainsi d'ailleurs que semblent prouver les frappes en Syrie, même si rappelons-le, elles n'ont pour l'instant été ni revendiquées ni affirmées par Israël, ces deux attaques quasi simultanées donc ciblaient probablement et indirectement l'Iran, que Jérusalem soupçonne aujourd'hui d'appuyer le djihad islamique dans le cadre de sa campagne d'influence près des frontières israéliennes.
Oui Thomas, le djihad islamique c'est le bras armé de l'Iran à Gaza, c'est un mouvement sunnite mais soutenu par l'Iran chiite, le plus grand ennemi d'Israël. L'ancien conseiller à la sécurité nationale israélien nous expliquait tout à l'heure au téléphone que le djihad islamique a développé ses capacités militaires grâce à l'argent iranien et grâce à son apport technique, et pour lui les activistes du djihad sont, je le cite, très créatifs et très professionnels. Selon Benjamin Netanyahou, qui s'est exprimé il y a trois quarts d'heure, l'homme tué ce matin avait déjà planifié, je cite, de nombreuses attaques terroristes et des tirs de roquettes contre Israël. C'est lui qui avait donné l'ordre de tirer un projectile lors d'un meeting électoral de Netanyahou il y a deux mois à Ashdod. Mais surtout, les renseignements israéliens pensent qu'il s'apprêtait à lancer d'autres attaques imminentes.
Et puis, bien évidemment, Frédéric, quand bien même ces frappes visaient donc le djihad islamique, eh bien, il sera intéressant d'observer comment le Hamas va lui réagir.
Oui, le Hamas au pouvoir à Gaza depuis son putsch en 2007 est la faction la plus importante là-bas, la mieux armée, son arsenal est supérieur à celui du djihad islamique, mais même s'il est considéré comme un mouvement terroriste par Israël, les États-Unis ou l'Union européenne, le Hamas c'est aussi un parti politique avec en ligne de mire peut-être des élections en Palestine l'année prochaine. Le djihad, lui, ne joue pas ce jeu-là, donc il met le Hamas au défi en se présentant comme le plus combatif face à Israël. Le Hamas va-t-il donc rentrer dans ce jeu et frapper à son tour Israël? Une délégation égyptienne est arrivée ici pour faire la navette entre le gouvernement israélien et le Hamas pour lui demander de ne pas passer à l'action. Outre le Hamas, il faudra surveiller si les roquettes du djihad islamique font des victimes israéliennes ou bien si elles touchent l'aéroport international de Tel Aviv. Dans ces deux cas, Israël serait obligé de frapper à nouveau Gaza.
Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Et puis toujours s'agissant donc de la guerre larvée entre Jérusalem et Téhéran, après que l'État hébreu eut alerté les inspecteurs de l'AEA sur un site iranien non déclaré, suspecté de participer à des activités nucléaires. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé hier que des particules d'uranium avaient bel et bien été détectées sur place. Dans son rapport, le gendarme du nucléaire confirme également une intensification générale de la production d'uranium par la République islamique dans le cadre de la sortie progressive de l'accord de 2015 après le retrait unilatéral des États-Unis. Parce qu'il a toujours fait de la lutte contre l'immigration illégale, l'un de ses chevaux de bataille, Donald Trump, avait, dès la première année de sa mandature, décidé de supprimer le programme de régularisation mis en place par son prédécesseur pour les jeunes gens arrivés illégalement aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants. Aussitôt, les tribunaux saisis en urgence avaient suspendu la décision du locataire de la Maison-Blanche, jugée arbitraire et capricieuse, offrant ainsi un répit à ces jeunes migrants surnommés les Dreamers. Sauf qu'à force de recours, voilà que leur sort se retrouve à partir d'aujourd'hui aux mains cette fois-ci de la plus haute juridiction des États-Unis, la Cour suprême. Alors sa décision ne sera pas rendue avant 2020, c'est-à-dire en pleine campagne présidentielle. Toujours est-il que si le temple du droit américain venait à donner raison à Donald Trump, cela ne signifierait pas nécessairement que les Dreamers seraient expulsés. En revanche, ils redeviendraient des sans-papiers avec toutes les complications que ce statut implique. Et puis au-delà, l'arrêt de la Cour pourrait aussi avoir une grande importance sur la nature même des pouvoirs discrétionnaires du président. Pourquoi ? Parce que le cas échéant, cela reviendrait ni plus ni moins à autoriser le chef de la Maison-Blanche à faire ou à défaire une politique sans aucune explication. Les précisions à Washington de notre correspondant Grégory Phillips.
8 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump avait signé un décret présidentiel mettant fin à ce programme également baptisé DACA et qui permettait à environ 1 800 000 personnes d'accéder à une régularisation partielle, permis d'étudier, permis de travail. L'administration Obama avait d'ailleurs trouvé un surnom à ces jeunes gens arrivés illégalement aux États-Unis encore enfants, les Dreamers, les rêveurs. Mais la suppression de ce dispositif a été contestée devant les tribunaux et le ministère américain de la Justice a donc saisi la Cour suprême qui va devoir trancher, sachant qu'aujourd'hui, la plus haute juridiction du pays est dominée par les juges conservateurs, 5 contre 4 progressistes. La décision de la Cour suprême ne sera pas immédiate, mais si le dispositif est finalement supprimé, alors des centaines de milliers de jeunes gens, pour la plupart originaires d'Amérique latine, pourraient être expulsés. L'immigration est déjà un sujet central de la prochaine présidentielle dans moins d'un an. La plupart des candidats à l'investiture démocrate ont déjà dit que s'ils étaient élus, ils trouveraient une solution pour ces Dreamers.
L'ancien président américain Jimmy Carter a été hospitalisé hier. Il doit subir aujourd'hui une intervention chirurgicale à la tête. Jimmy Carter est âgé de 95 ans. Et puis au Pérou, l'ex-président Pedro Pablo Kuczynski a lui aussi été hospitalisé hier. Il est actuellement en soins intensifs pour un problème d'arythmie cardiaque. Élu en 2016, il avait démissionné l'an dernier à la veille d'un probable vote parlementaire pour le destituer. Assigné à résidence, il est aujourd'hui visé par une enquête pour blanchiment d'argent présumé dans le vaste scandale de corruption Odebrecht, du nom du géant brésilien du BTP. Barricades, affrontements, pillages en Bolivie. Non seulement la démission du président Evo Morales n'aura pas permis un retour au calme, mais pire encore, elle a semble-t-il plongé davantage le pays dans le chaos. Hier, un véritable climat de violence est installé un peu partout, à tel point que les forces armées ont même dû être sollicitées par la police pour contenir les heurts déclenchés dans plusieurs régions du pays par les partisans de l'ex-dirigeant socialiste. Alors, se disant menacé, Evo Morales a lui rejoint le Mexique où il a obtenu l'asile. Et le problème à présent, eh bien, c'est que cette impression de désordre généralisé est aujourd'hui renforcée par la vacance du pouvoir à la tête du pays. Le chef de l'État a en effet entraîné avec lui la démission non seulement de son vice-président, mais aussi des présidents à la fois du Sénat et de l'Assemblée, autant de personnes qui, selon la Constitution, auraient pu lui succéder, de sorte que c'est aujourd'hui la deuxième vice-présidente du Sénat qui revendique son droit à devenir chef de l'État par intérim pour organiser de nouvelles élections. Le Parlement, où les partisans d'Evo Morales sont toujours majoritaires, doit justement siéger aujourd'hui pour acter sa nomination, sauf Olivier Pujade, que rien n'est encore joué. Evo Morales est désormais hors-jeu, exilé au Mexique, mais une grande partie des représentants de sa force politique est toujours bien en place. Les élus du MAS, le mouvement pour le socialisme, restent largement majoritaires à la Chambre des députés et au Sénat. Les deux tiers du Parlement sont encore solidement fidèles aux leaders indigènes. Les affrontements de rue devraient donc se muer en une bataille politique acharnée aujourd'hui. Les représentants du peuple bolivien se réunissent. Les quatre premiers prétendants à la présidence par intérim ont tous démissionné, vous l'avez dit, dans le sillage de Morales dimanche soir, le vice-président Alvaro Garcia, les présidents de l'Assemblée et du Sénat et le premier vice-président du Sénat. C'est donc une cinquième personne qui revendique aujourd'hui l'intérim, la sénatrice Janine Agnès Calves, deuxième vice-présidente, figure de l'opposition. Elle revendique son droit constitutionnel à devenir chef de l'État par intérim dans l'unique but, dit-elle, d'assurer la transition vers de nouvelles élections. Elle a d'ailleurs évoqué la date du 22 janvier. C'est là que les choses se compliquent. Les élus majoritaires du MAS seront-ils disposés à coopérer au milieu d'un tel chaos? Deuxième interrogation, c'est une aile radicale d'extrême droite qui contrôle aujourd'hui le pays et qui n'est visiblement pas disposée à accepter qu'un candidat socialiste se présente à de nouvelles élections. Les élus boliviens auront de lourdes responsabilités dans les heures qui viennent. Leurs prises de position seront déterminantes pour éviter que le pays ne sombre définitivement dans une guerre civile. Les manifestants hongkongais s'en sont à nouveau pris aujourd'hui pour la deuxième journée consécutive au réseau de transport de la mégapole au lendemain de l'une des journées les plus violentes en 5 mois de mobilisation pro-démocratie au cours de laquelle un manifestant a été blessé par balle par un policier et un homme aspergé d'un liquide inflammable et transformé en torche humaine. Dans le quartier de Central, lequel abrite un nombre de grandes entreprises étrangères accusées de faire le jeu du gouvernement local ou de Pékin, des milliers d'employés de bureaux ont organisé des rassemblements spontané à l'heure du déjeuner. Enfin, la tension était également vive ce matin dans un grand nombre d'universités. De son côté, la chef de l'exécutif, Karine Lam, a assuré hier que les violences ne conduiraient à aucune concession de la part du gouvernement. L'Australie sur le pied de guerre. Des milliers de pompiers ont encore été déployés aujourd'hui pour tenter de faire face aux incendies qui, depuis vendredi, ont déjà fait 3 morts, détruit plus de 150 habitations et contraint des milliers d'habitants à fuir pour la première fois. Sydney et ses environs font face au plus haut niveau d'alerte jamais émis, l'état d'urgence a été déclaré. Comment faire exister un rendez-vous annuel consacré à la paix censé défendre le multilatéralisme face à la montée des égoïsmes nationaux quand la plupart des dirigeants de la planète ont choisi de décliner l'invitation, ou dit autrement un forum pour quoi faire dès lors que les grandes puissances de ce monde décidément de plus en plus fracturées en sont absentes. Seule certitude, il faudra toute l'énergie et la force de conviction d'un Emmanuel Macron pour assurer le succès de cette seconde édition du Forum de Paris sur la paix inaugurée officiellement ce matin. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes sur place à la grande halle de la Villette. Après le succès de la première édition, Bertrand, quelle est la tendance et surtout que faut-il attendre de ce forum ?
Eh bien, beaucoup de bonnes intentions, mais aussi des clarifications. Par exemple, quand Emmanuel Macron évoque les dangers auxquels serait confrontée la communauté internationale, notamment le risque de paresse qui évite de remettre en cause les organisations existantes sans jamais prononcer le nom de l'OTAN, mais l'allusion est limpide.
On a des organisations, on les aime bien, ne les questionnons pas. Elles ont parfois perdu leur finalité, plus personne ne comprend où elles vont. Mais cachons ce sein que nous ne saurions voir, comme on dit dans Molière, et ça avancera mieux. Je ne crois pas du tout, je l'ai montré parfois en heurtant peut-être certains dans cette salle il y a quelques jours ou quelques semaines, je pense qu'on a besoin de vérité. La pudibonderie ou l'hypocrisie, ça ne marche pas dans les temps qui courent. Pourquoi ? Parce que nos concitoyens le voient. Nous sommes dans un monde ouvert. Les experts qui sont ici présents, les citoyens, les activistes, ils voient les conséquences de ce monde-là. Quand ça ne marche plus, ils nous le disent. Donc l'hypocrisie et le silence, c'est pas une solution.
Des propos sans détour tenus en présence de Ursula von der Leyen, la présidente désignée de la Commission européenne, qui a récemment pris le contre-pied des critiques du président français en qualifiant l'OTAN d'institution remarquable. Emmanuel Macron pointe du doigt 2 autres périls pour le monde, l'absence de coopération, c'est-à-dire le repli sur soi, et enfin le risque de voir s'installer l'hégémonie des grandes puissances, une situation qui, dit-il, pourrait générer frustrations et ressentiments. L'appel du président Macron à parler franc tranchait ce matin avec les discours inauguraux très convenus du vice-président chinois et du président congolais.
Merci Bertrand Galichet en direct de la grande halle de la Villette ainsi qu'à Laurent Lucas pour les moyens techniques. C'était vendredi dernier pour alerter sur l'extrême précarité dans laquelle vit aujourd'hui une partie des étudiants en France. Un jeune homme de 22 ans décidait d'offrir son corps et sa douleur en sacrifice devant le bâtiment du Crous lyonnais, cet étudiant de l'université de Lyon 2, lequel n'avait pas eu accès à une bourse, s'immolait par le feu en pleine rue. Et c'est donc en soutien à ce jeune homme, toujours entre la vie et la mort, qu'une quarantaine de rassemblements sont prévus aujourd'hui devant tous les Crous de France. D'un reportage à Lyon, signé Mathilde Imberti.
C'est sa petite amie qui lance les slogans devant le Crous de Lyon. Des centaines d'étudiants, mais pas uniquement, sont réunis. Cette immolation a secoué les consciences. Les derniers mots de l'étudiant sont inscrits à la bombe sur la façade de l'établissement.
Alors, il est écrit « Mon dernier souhait, c'est aussi que mes camarades continuent de lutter pour en finir définitivement avec tout ça. » Donc c'est important qu'on continue de porter son message, que c'était pas un message isolé. Quoi.
Ali Giafone, ses amis expliquent qu'il triplait sa deuxième année de licence, que sa bourse lui avait été retirée, que la demande de reconduction exceptionnelle avait été refusée. La précarité est notre quotidien, dénoncent les membres de Solidaires étudiants. Elliot, par exemple, 25 ans.
Moi, par exemple, j'ai le droit qu'à 250 euros de bourse. Mes parents peuvent à peine m'aider. J'ai environ 200 euros de loyer. Après, j'essaie de faire mes courses et je mange des pâtes. Donc moi, j'en ai marre aussi, en fait.
Elliot qui raconte qu'il a voulu consulter dans une période difficile une psychologue à l'université. Il fallait attendre 2 mois pour un rendez-vous, alors que selon le syndicat Solidaires étudiants, 8% des étudiants ont tenté de mettre fin à leur jour.
Un reportage donc à Lyon, signé Mathilde Imberti. C'est le premier procès de cette ampleur pour la première banque française, en l'occurrence la BNP Paribas, poursuivie pour pratique commerciale trompeuse. Sa filiale, BNP Personal Finance, est jugée à partir d'aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Au total, pas moins de 1643 personnes se sont portées partie civile dans cette affaire. Toutes s'estiment victimes de pratiques commerciales trompeuses après avoir souscrit entre 2008 et 2009 à un crédit immobilier appelé Helvet Immo et indexé sur le franc suisse, c'est-à-dire soumis aux variations des taux de change. En d'autres termes, ce qu'on appelle un prêt toxique. Les précisions d'Anne Lorchouin.
Ce que les parties civiles souhaitent voir reconnu, c'est la pratique commerciale trompeuse, c'est-à-dire le fait que, selon elle, la BNP savait très bien que ce crédit mis sur le marché et vendu pendant 2 ans était risqué, mais qu'elle a volontairement caché ce risque aux emprunteurs, comme en témoignent d'ailleurs des documents transmis par les victimes à la justice, documents que nous avons pu consulter. Les conseillers chargés de diffuser ce prêt Helvet Immo faisaient valoir un taux d'intérêt 1 point en dessous des taux pratiqués à l'époque et expliquaient que les mensualités à rembourser seraient fixes et que le taux d'intérêt était fixe également. Or, ce dernier point était faux. Brice Gay du collectif des victimes d'Helvet Immo.
On considère que la banque a fourni aux clients des informations fausses ou de nature à les induire en erreur parce que ce prêt était présenté vraiment comme un prêt avantageux alors qu'il était hautement toxique. Il y a des situations qui sont intenables financièrement pour certaines victimes qui conduisent à un appauvrissement considérable ou pire, vraiment à une situation de surendettement. Et donc ce procès pénal qui s'ouvre, on l'espère, amènera déjà une première reconnaissance du préjudice.
La BNP dénie avoir caché sciemment le risque aux emprunteurs, mais d'autres témoignages nous ont fait état de réunions à la banque, réunions pendant lesquelles les concepteurs de ce produit toxique se sont félicités du fait qu'il apparaissait incompréhensible à la plupart des cadres chargés de l'examiner, une complexité qui aurait fait les affaires de la banque. Enfin, ce produit a été mis en vente juste avant la crise des subprimes, à un moment où les banques soumises à une concurrence très forte cherchaient, parfois par tous les moyens, à augmenter leurs marges.
Comment restaurer la confiance du public envers les médias? Depuis quelque temps, la question se pose avec une acuité toute particulière et tout particulièrement à la veille de l'an 1 du mouvement des Gilets jaunes, dont la couverture par les médias justement a fait l'objet de nombreuses critiques. Maxime Tellier, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors, de très nombreux débats ont été lancés autour de cette question. En l'occurrence, la dernière initiative en date associe plusieurs journaux, mais aussi des chaînes de télé, de radio, dont Radio France, autour d'un site dédié, mediasetcitoyens.com, dont le but, Maxime, est d'abord et surtout de combattre la méconnaissance des médias de la part du public.
Oui, l'idée est plutôt simple, hein. L'idée du site Média et Citoyens. Les internautes livrent des témoignages, leurs avis. Le débat s'engage entre eux ensuite sur différents sujets choisis à l'avance. Et en février, donc dans 3 mois, un bilan de ces discussions sera présenté lors d'une conférence de restitution finale avec l'agence Bluenove, qui a déjà travaillé sur le grand débat. À Radio France, c'est Éric Valmire, le secrétaire général de l'information, qui pilote ce projet. Lui en attend une nouvelle occasion de répondre aux questions du public. Une approche toujours fructueuse et utile, selon lui.
C'est avant tout la restitution qui nous a intéressés à Radio France, parce que finalement le principe de concertation autour de l'information, de nos pratiques éditoriales, on le fait tous les mois. Le principe est de se mettre devant une salle avec 4 ou 5 journalistes de Radio France, des différentes rédactions, de Culture, d'Inter, d'Info, des France Bleu, des locales de France Bleu, et non pas de faire un débat entre journalistes, mais de répondre aux questions que se pose le public. Et cet échange physique, il est important parce qu'on voit très vite qu'il y a une méconnaissance plus qu'une défiance. En fait, si on a quelque chose peut-être à se reprocher, nous journalistes, c'est d'avoir peut-être vécu, et les générations passées, dans une forme de microcosme. Il suffit de penser qu'une personne sur 10 sait ce qu'est une conférence de rédaction. Donc 9 sur 10 ne le savent pas.
Et dans le cas de Médias et Citoyens, il s'agira d'échanger sur Internet sur une période de 3 mois, pas d'une rencontre donc dans une salle, sur une seule soirée. Mais l'objectif reste le même, expliquer comment on travaille, comment on fait du journalisme, comment on peut se tromper aussi avec la fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès par exemple. Et si la salle n'est pas d'accord avec les orateurs, eh bien tant mieux, parlons-en. Éric Valmire se souvient d'une rencontre très animée, c'était à Toulouse en février.
On s'est retrouvé à Toulouse avec une salle qui était composée de beaucoup de gilets jaunes. Et les gilets jaunes nous disaient « Vous ne parlez jamais de nous ». Et nous, on leur disait « Mais si, on parle tout le temps de vous ». Non, c'est pas vrai. Et donc, il y avait une confrontation. Et à partir d'un moment où il y a eu un dialogue direct, au bout d'un moment, on a dit « Attendez, on va pas s'énerver. Vous pensez qu'on parle pas assez de vous et nous, on pense que le contraire ». Donc, ce qui est intéressant, c'est d'analyser ce ressenti-là. C'est confronter deux ressentis, parce qu'il est beaucoup question de ressenti. Quand il a été question des violences policières sous-traitées, par exemple, pendant le mouvement des Gilets jaunes, les violences policières, on pouvait mettre sur le tapis les dates de diffusion, ou quand ça avait été traité, à quel moment, la somme d'invités. Et donc, les auditeurs ne peuvent pas tout entendre. Il faut bien penser qu'une rédaction, elle travaille du matin au soir, et que ce qui est dit à 8h, on va pas être forcément répété à midi.
Alors cette approche qui vise, on l'a bien compris, à mieux informer le public sur les pratiques journalistiques, est-elle suffisante, Maxime ?
Eh bien sans doute pas, car la défiance vis-à-vis des médias a pris trop d'ampleur. Dans le dernier baromètre sur la confiance dans les médias publié par La Croix en janvier dernier, seuls 50% des Français jugeaient crédible l'information donnée à la radio. La presse écrite ne faisait que 44% de satisfaits, la télévision 38% et la presse en ligne 25%. Alors que faire ? Eh bien l'historien des médias Patrick Evenot propose une solution qu'on n'a jamais essayée en France. Il défend la création d'un conseil de déontologie de la presse. C'est plus qu'une idée puisque ce conseil sera bel et bien lancé le 2 décembre prochain à Paris.
Un conseil de déontologie journalistique et de médiation, comme il en existe dans une 20aine de pays européens, de l'Union européenne, donc ce n'est pas une nouveauté. Le premier a été créé en Suède en 1916. C'est une instance qui est capable, non pas d'endiguer en un coup de baguette magique, mais de rétablir la confiance, parce que le public saura qu'il y a un endroit où il pourra dialoguer avec les journalistes, avec les entreprises, mais aussi avec ses propres représentants du public, parce que c'est un organisme tripartite. Et donc, petit à petit, c'est une façon de rétablir la confiance. On voit que dans tous les pays où il y a un conseil de déontologie ou un conseil de presse, suivant les pays, ça change de nom, mais c'est la même chose, la confiance est nettement plus élevée qu'en France où il n'y en a pas.
Et ce conseil de déontologie ne sera pas un conseil de l'ordre, hein, il ne prononcera pas de sanctions, mais il pourrait être saisi par le public ou s'auto-saisir pour enquêter, débattre et mettre des avis sur l'affaire Dupont de Ligonnès par exemple, ou encore sur le cas d'Éric Zemmour. Actuellement, c'est le CSA qui reçoit les plaintes, mais son rôle n'est pas de faire de la déontologie du journalisme.
Et la question, Maxime, reste au fond toujours la même. Est-ce qu'un conseil de presse sera là encore suffisant donc pour apaiser la défiance du public envers les médias ?
Vous l'avez entendu, Patrick Evenot, on vient de le dire. Ce conseil semble apaiser les choses dans les pays où il est mis en place. En Belgique, où il existe depuis 10 ans, au Québec aussi, hein, une étude a été commandée par le conseil de presse local qui montre que 60% des Québécois font confiance à leurs journalistes. C'est la proportion à peu près inverse à celle de la France. Mais d'autres estiment que le problème est encore plus large, qu'il dépasse les journalistes. C'est le cas de Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières, qui était l'invité de l'émission Soft Power ce dimanche sur France Culture. Pour lui, la défiance est causée aussi par un phénomène nouveau et mondial qu'il appelle désordre informationnel et qui dépasse les médias traditionnels.
Ce qu'on appelle le désordre informationnel, c'est le fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans une phase dans laquelle il y a une concurrence directe entre des contenus qui n'ont rien à voir. La propagande d'État, la publicité, le journalisme, ce qui était autrefois la conversation du dimanche. Et nos systèmes juridiques étaient fondés sur ces distinctions entre l'espace public et l'espace privé, entre des types de médias. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les plateformes, elles mettent en concurrence directe tous ces contenus. Et ça, c'est totalement nouveau.
Et on l'a bien compris, Maxime, toute la question du coup finalement tourne autour de la mise en œuvre d'obligations pour ces plateformes.
Oui, il en existe déjà, ou il en existera. La loi Avia devrait bientôt en instaurer en obligeant les réseaux sociaux à retirer des propos haineux déjà en ligne. Mais l'idée de Reporters sans frontières est de travailler plus en amont en modifiant les algorithmes afin de mettre en avant des contenus fiables. RSF veut instaurer un système de certification des médias qui respecte la déontologie journalistique, par exemple. Une trentaine de pays, dont la France, ont signé et rejoint cette démarche. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'obligatoire pour les plateformes et pour les grands réseaux sociaux.
Merci Maxime Tellier. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Un ciel lumineux des plaines du Roussillon et du Languedoc vers la vallée du Rhône jusque vers la région PACA. Partout ailleurs, en revanche, le temps restera agité avec des nuages et des averses. Quant aux températures, elles afficheront entre 6 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.